Radio Okapi.
Un jour, une histoire.
Dans votre magazine, un jour, une histoire. Bienvenue à ce rendez-vous de l'histoire, je dirais même de la page d'histoire, sur la fréquence de la paix, comme annoncé depuis la semaine dernière. Nous poursuivons tout ce mois de juin à parler de l'histoire de l'indépendance en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur certains facteurs et acteurs qui ont joué un rôle, on va dire, crucial durant cette période de l'indépendance du Congo. Nous aurons d'abord en premier Jean-Ré Pince, c'est au fait un Belge qui est né en 1929 à Bassoko dans l'ex-province orientale. À l'époque du Congo belge, il a passé 31 ans en République démocratique du Congo avec lui. Nous allons évoquer quelques souvenirs et anecdotes. Il va parler également de certains événements qui ont marqué l'accession de la RDC à l'indépendance. Nous aurons également un autre témoin de l'histoire. Il vit dans le Congo central. Il s'appelle Isidore Lubanzadio. Il va nous raconter également cette histoire dont il a été témoin. Voilà pour les invités de votre émission Un jour, une histoire. Au micro, Pamela Mounazomoilou. La prise de son est de Bob Landou et Jean-Marc Matsaki supervise. Agréable condition d'écoute. Les Belges pensaient avoir trouvé un système parfait. Une présence permanente, tout en gardant l'estime des Africains. L'amélioration lente, mais continue, du niveau de vie semble justifier les vertus de la colonisation belge. Mais sous cet ordre de surface se développent des revendications venant des secteurs religieux, des tribus, des intellectuels. Vers 1920, Simon Kimbangu prêche une forme de christianisme. Les autorités belges, jugeant son enseignement subversif, le condamnent à mort, puis à la détention perpétuelle. Pendant la crise de conscience politique, des Congolais se manifestent tardivement. En 1956, sont publiés trois manifestes. Conscience africaine, la déclaration de l'épiscopat du Congo belge et le contre-manifeste. Dans le premier texte, les signataires, notamment Joseph Malula, futur cardinal de Kinshasa, Joseph Iléo et d'autres élèves des pères Skeut, revendiquent l'émancipation politique complète sans un délai de 30 ans. Dans le second texte, l'Église prend ses distances avec l'État colonial en insistant sur le fait que les Congolais ont le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques. Le contre-manifeste, rédigé par la barre de Joseph Kassavubu, est encore plus radical en exigeant l'émancipation immédiate. En 1957, la Belgique accepte l'organisation des élections locales. Les Congolais votent pour la première fois. L'annulation d'un meeting de l'Abaco provoque le 4 janvier 1959 des émeutes à Léopoldville que la répression militaire noie dans le sang. Quelques centaines de morts, tous Congolais. Au début de l'année 60, au cours d'une table ronde réunissant à Bruxelles des indépendantistes congolais et des délégués du Parlement et du gouvernement belge, l'indépendance du Congo est fixée au 30 juin. De la même année, la Belgique précipite l'avènement car elle craint une rébellion du Congo. Des Algériens se battent alors pour leur indépendance et un isolement international dans un contexte où des grandes puissances, Royaume-Uni, France principalement, se séparent une à une de leurs colonies en Afrique noire. Enfin, la métropole sait qu'elle ne conservera finalement pas la mainmise sur son ex-colonie. Les grandes entreprises et les officiers de l'armée congolaise resteront belges, tandis que les futurs dirigeants solliciteront l'aide des conseillers belges. La Belgique organise des élections législatives pour élire les membres du Parlement, à qui elle signerait et remettrait les documents signifiant l'indépendance de la République démocratique du Congo. Patrice Emery Lumumba joue un rôle crucial, mettant en avant une vision nationale du Congo et non fédérale, comme le voulaient les Belges et les Congolais opportunistes. le MNC de Lumumba et ses alliés remportent les élections nationales avec 65% de sièges au Parlement. L'État indépendant sera sous le régime parlementaire, le Premier ministre étant le chef du gouvernement, le président n'ayant qu'un rôle symbolique. À l'occasion de la nomination du président, Lumumba convainc ses amis et alliés d'offrir ce poste à son adversaire, Joseph Kasavubu, car, estime-t-il, la victoire contre le colon est d'abord celle de tous les Congolais. Bienvenue à Un jour une histoire. Nous poursuivons notre émission. Nous allons retrouver Jean-Ri Pince. C'est un Belge qui est né ici en République démocratique du Congo depuis 1929. Il est né à Bassoko, dans l'ex-province orientale. Et puis, il va donc, dans cette émission, nous parler de lui, puisqu'il a passé 31 ans ici, en République démocratique du Congo. Il va donc nous parler de ces événements qui ont marqué l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Il en parle à Jean-Marc Matwaki. Suivez.
Vous êtes un témoin de cette histoire. Comment vous analysez la marche du Congo vers l'indépendance ?
Pour moi, la marche du Congo vers l'indépendance, j'en discutais très souvent avec le compagnon de ma fille, qui s'appelle Barley. Je lui ai montré toute mon histoire, appelons ça congolaise, qui commence en 28 avec mon père et qui se termine, disons, vers 60. Pourquoi ? Parce qu'en 60, l'indépendance a été accordée. Cette indépendance, aussi bien mon père et moi, on s'est dit, là, c'est une gaffe énorme, parce que ce n'est pas ça que demandait la plupart des Congolais. La plupart des Congolais, ça je peux en témoigner, ils demandaient une indépendance, je dirais, qui irait sagement. Un de leurs désirs, et ça s'appliquait déjà dans notre société, c'est que quand quelqu'un venait travailler chez nous, n'avait pas fait d'école spéciale ni quoi que ce soit, on lui apprenait tout. Donc, on était des éducateurs. Et c'est à partir du moment où on est éducateur, disons, de quelqu'un, qu'il y a le respect qui se fait, disons, de la part de l'un comme de l'autre. Et moi, je suis sûr que l'indépendance, elle a été accordée de façon totalement, je dirais, sauvage. Parce que, et comme dit Barley, c'est un rendez-vous manqué. Parce que on aurait pratiqué, je ne dis pas le paternalisme, ça s'est pratiqué pendant très longtemps le paternalisme, mais un père de famille, je n'y dis une image, un père de famille, quand laisse-t-il quitter ses enfants dans la famille ? C'est lorsque l'enfant est à même de pouvoir se débrouiller tout seul. C'est alors qu'il devient indépendant et qu'il ne dépend plus de son père. Bien, c'est ce type d'indépendance-là qu'on aurait dû accorder. Dit, mais au fur et à mesure, il y avait un gouverneur général blanc, mais pourquoi pas, à côté de lui, un gouverneur général noir. Et que ces deux-là collaborent. Et que le gouverneur général blanc dise un jour à son adjoint gouverneur congolais, mais écoute, tu reprends les rênes, mais pour ça, il faut le temps. Il faut le temps, et si on me demande combien de temps, 2 générations. Et on arrive à quoi ? On arrive à ce fameux plan Van Bilsen, qui était le plan d'à 30 ans, qui pour moi, ça c'est mon sentiment, on peut être contre, mais pour moi, c'était la bonne solution. Et si tout se gaffe, c'est uniquement pourquoi ? C'est parce qu'il y a cette fameuse révolte à Taysville, c'est-à-dire la Bandungu. Et alors, pour dire comment je quitte le Congo, c'est quand on apprend à Matadi, mais nous habitions Mvula, de l'autre côté du fleuve, on apprend tout ce qui se passe autour de ça, les viols, il y a même eu, disons, l'assassinat de mon ami qui s'appelait André Reckmans. Moi, j'étais en classe avec lui. Quand on apprend tout ça, et que ces mutins, parce que je les appelle comme ça, ces mutins arrivent à Matadi, mon père qui est prévenu, il dit qu'il n'y a qu'une seule chose, tu prends ta maman, ta femme, ton fils, les femmes des Européens qui sont là, et nous allons essayer de partir le plus vite possible. Mais comme on habitait de l'autre côté du fleuve, avec 3 voitures, on part sur Matadi, et ça je le raconte dans mon film, on part sur Matadi, et il y a le bac, le commandant du BAC voit nos voitures. Ils sont venus nous chercher. Nos trois voitures sont allées jusqu'à la coupée du bateau. On est monté. Et je crois qu'à partir du moment où j'ai quitté le sol, que pendant la nuit, c'était le Taizville à déaller, j'ai dit maintenant c'est fini, tu dois divorcer. Mon divorce commence là.
Mais qu'est-ce qui est à la base de cette révolte selon vous?
Moi, la révolte, c'est de nouveau un patron qui s'appelle Janssens, qui n'a rien compris. Il n'a rien compris. Le complexe de supériorité de ce monsieur, et ça je crois que c'est une grosse erreur. C'est lui qui nous a cochonnés. Il aurait nommé des commandants et des majors qui étaient à même de le faire. Quand on pense, le fameux Joseph Désiré Mobutu, c'était un bonhomme capable. Il était sergent-major à la force publique. Un type qui était bien éduqué. Qu'on dise à celui-là, avant l'indépendance est égale à avant l'indépendance. Donc, vous n'avez pas de meilleur traitement, pas de titre supplémentaire. C'est là, c'est le mépris, finalement. Et c'est ce qui a dû engendrer la révolte. Et quand on dit révolte, à la tête des révoltés, il y a toujours les drogués. On peut me faire raconter ce qu'on veut. Ces gens-là ne réfléchissent plus et font le pas de trop. Et ça, pour moi, c'est le pas de trop. Mais ça n'a pas été compris par Bruxelles. Pourquoi? Parce que Bruxelles, ce sont des Européens. Ce ne sont pas des Européens comme moi qui ont vécu là, qui sont nés là. Je crois que l'indépendance du Congo, c'est pour moi un rendez-vous manqué.
Votre analyse sur la table ronde organisée à Bruxelles en janvier 1960.
Mais la table ronde, on est à Bruxelles, il y a ce qu'appelle moi les ceux qui cherchent l'indépendance, et à mon avis, ils cherchent l'indépendance, pas de la façon dont on leur a accordé. Quand on leur a accordé, c'est quoi? On vous donne tout, démerdez-vous. Mais avec quels moyens? Avec quelle capacité? Ce ne sont pas ceux qui ont obtenu l'indépendance à Bruxelles qui, à mon avis, étaient capables de mener un pays comme le Congo. C'est pas possible. Du jour au lendemain, on devient, je crois qu'il y avait à cette époque-là, 12 millions ou 15 millions de Congolais. Et à Kinshasa, ça aussi, c'est une conclusion que je fais, moi. Les erreurs ont été commises où? Bruxelles et Kinshasa. Moi qui suis devenu, je dirais, métis culturel. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de sang congolais, mais la culture congolaise, je l'ai pratiquée. Et je crois que, personnellement, si on ne comprend pas le bantou, on ne le comprendra jamais. Comment est-ce qu'on peut le comprendre? C'est uniquement quand on vit avec lui. Ce qu'on dit avec un grand mot, la symbiose. Moi, je sais que j'ai vécu, depuis que je suis né au Congo, en symbiose avec le Congolais. Un, parce que c'est un des plus grands regrets que j'ai, c'est que j'ai un frère de lait congolais. Et que ma mère, parce qu'on a quitté le Haut-Congo, que ma mère, après l'avoir, je crois, nourri pendant 3 ou 4 mois, et qu'il a été rendu à son clan, qui ne se sont plus préoccupés, ils ont quitté le Haut-Congo pour le Bas-Congo. Ça fait que si je pouvais savoir qui est mon frère de lait congolais ici et ses descendants, ce serait pour moi très, très amusant, très, très enrichissant. Non, mais pour revenir à l'histoire de l'indépendance, je n'ai qu'une chose à dire, ça a été bâclé. Un bâclage monstre. La faute à qui? Parce que à l'indépendance, le 30 juin, je suis en Mvula avec mes parents et tout se déroule très bien au point où à Mvula on avait plus de 150 travailleurs qui tous étaient à Bakou, pas un, que ce soit un bonhomme venant du nord ou venant du sud, ils étaient tous à Bakou, au point où Kazavubu, avec Daniel Kanz, sont passés à Moulins pour remercier les nouveaux membres. Et là, quand on pense que être membre à cette époque-là, c'était 50 francs. Et que par semaine, le pochot, c'était 52 francs. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant ici en Europe que chacun devienne membre d'un parti? C'était pas encore un parti, hein, c'était une tendance. Hein. Et ça devient un parti beaucoup plus tard. Ça devient un parti à partir du moment où, déjà, de nouveau à Kinshasa, se produit ce qui pour moi n'est pas normal. C'est que à Kinshasa, on est sur terre, Bakongo. Et que la langue Kikongo est méconnue. On ne la pratique plus. Donc la langue maternelle pour ceux qui habitent ici, pour moi, c'est le Kikongo. Et cette langue-là, on l'a aussi négligée. Donc ce sont tous peut-être des petits phénomènes, mais pour moi c'est très important, c'est connaître l'autre, se connaître mutuellement. Et l'indépendance, moi je suis désolé. On nous aura donné le temps. Et à ceux qui exigeaient aussi l'indépendance, c'est qui n'était que normal. Quand nous sommes partis, quand moi je vivais là au Congo, mais c'est évident que ça n'a plus être belge, que ça devait venir au point où je dis, je repense à quoi? Au royaume de Congo. Donc là, on va beaucoup plus loin dans la pensée, parce que royaume du Congo, quoi? Parce que il existait en 1500. On parlait du royaume du Congo. On parlait du royaume des Baluba. On parlait des Azande. Ces gens-là avaient un système. Et c'est pour ça, je pense, que la fondation que je vais réaliser, c'est de faire l'éducation via la bande dessinée avec des arguments historiques, le plus historiquement possible. Parce que maintenant, l'histoire, elle sera jugée dans quelques siècles seulement. Mais je crois que la seule chose, c'est ce que je regrette moi, c'est qu'on n'a pas voulu faire le chemin ensemble. On aurait fait le chemin ensemble tout en étant Congo. Congo, RDC si on veut. Là où j'étais fier, c'était qu'on avait toujours le drapeau congolais. Ce drapeau congolais qui sortit de l'imagination d'un certain roi Léopold II, qui est finalement un drapeau qui est un drapeau américain. La fameuse étoile verte, c'est du Texas. Et parfois je fais un parallèle. Est-ce qu'on a mieux réussi l'intégration, je dirais presque l'intégration forcée, qui a été la traite, l'esclavage, a amené tout de même beaucoup de Congolais. Et il paraît que moi j'ai visité des endroits dans le Bas-Congo où il y avait le commerce. Là, à Moanda, il y avait une chose, il y avait une énorme marmite dans laquelle on faisait à manger pour les pauvres esclaves finalement. Ils sont arrivés en Amérique. Est-ce qu'ils ont mieux réussi en Amérique? En Amérique au jour d'aujourd'hui, il y a encore toujours ce racisme qui existe. Alors ça, c'est la question que je pose. Et je pense, je suis presque sûr, que si on avait pu faire une indépendance, on se serait assimilé mutuellement. Parce que c'est ça qu'il fallait trouver, hein, qu'il n'y ait pas de différence entre nous.
Jean Raipens, merci d'avoir répondu à nos questions.
Vous suivez Radio Capi avec comme invité M. Isidore Lubanzadio qui nous raconte l'histoire du mouvement qui a poussé, ce mouvement qui nous mène vers l'indépendance. Est-ce qu'il n'y avait que Simon Kimbangu qui a pu impulser cela ou il y avait d'autres personnes également?
Oui, il y a eu d'autres personnes parce que lorsque Kimbangu est arrêté, il y a eu toujours ces mouvements dans le Bas-Congo, le mouvement qu'on appelle le mouvement de Ngunza. Parce qu'il y avait... Il y avait le Mpadi, Jean-Pierre Mpadi, ses adeptes existent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Mm-hmm. Il y avait Mabwa dans les années 50, lui aussi est venu avec toujours, hein, c'est toujours, c'est un peu religieux, mais avec des idées politiques, la liberté. Mais alors, dans les années 50, c'est dans les années 50 que, en fait, la Bakou a été initiée. Finalement, sont les intellectuels ont trouvé que, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'organiser autrement?
Ça veut dire que tous ces mouvements religieux n'ont pas pu...
Non, ils n'ont pas abouti...
Abouti à quelque chose afin de faire changer...
Non, ils n'ont pas pu... Ils ne sont pas parvenus à faire changer les choses. Oui. Mais la réflexion est arrivée dans les années... après la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on vient de découvrir que le blanc, il est aussi... voilà, c'est un homme
fragile,
comme tout le monde.
Canon, hein? Oui.
Et tous ces militaires qui sont partis à la guerre, ils sont revenus, ils vous racontent des histoires. On les appelait à l'époque de Moyen-Orient. Alors, maintenant, ils racontent que les Blancs, c'est un homme comme nous. Parce que nous aussi, nous sommes battus contre les Italiens, contre les Allemands. Bon, nous avons tué les Allemands, nous avons tué les Italiens. Vous voyez que maintenant, les gens arrivent à comprendre que maintenant, l'homme blanc, il y a possibilité aussi de les bousculer. Mm-hmm. Et puis, il faut prendre ces histoires dans une configuration générale, parce que du côté, par exemple, du Congo-Brazzaville, là-bas, le mouvement, c'est tout à fait différent, parce que les Français étaient beaucoup plus progressistes. Immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dû organiser des élections dans les ex-colonies, françaises. Pendant que nous, ici, on continuait toujours à patauger dans notre système. Donc, les événements qui se passaient de l'autre côté du Congo, enfin de l'autre côté du fleuve, avaient une influence sur les gens qui étaient à Léopoldville à l'époque. C'est ainsi que les intellectuels ont commencé aussi à se poser des questions et dire, mais écoutez, est-ce qu'on ne peut pas s'organiser pour faire comme ceux qui sont de l'autre côté?
Ça, c'était en quelle année?
Ah, c'est déjà dans les années, 47, 48, 50, ainsi de suite. Voilà comment les choses sont parties. Il y a un événement très important dans les années 53.
Oui.
C'est le changement en Belgique. Ce n'est plus l'équipe chrétienne qui était au pouvoir. Maintenant, les libéraux et les socialistes sont arrivés au pouvoir en Belgique.
Ok.
Lorsque le gouvernement social libéral arrive au pouvoir, on prend un grand progressiste, du moins à l'époque, M. Bousséret Auguste. Bousséret comme ministre des colonies. Et quand on le prend comme ministre des colonies, à l'époque, en Belgique, il y avait une guerre scolaire entre les catholiques et les écoles libres. Mmh. Alors Bousséret était décidé d'amener le même problème au Congo. C'est-à-dire la guerre scolaire au Congo. Mmh. Voilà. Maintenant, les Congolais, ils voient comme les Belges aussi entre eux, mais ils ont des divisions, ils ne s'entendent pas. Mm-hmm. Bon, ils viennent toujours nous faire l'image que c'est des gens qui sont unis, mais maintenant, nous voyons qu'ils ont des divisions. Ça, c'est de un. De deux, en 1955, il y a le professeur Van Bulsen. Lui, c'est un professeur, c'est un juriste, et lui, il fait un plan pour l'émancipation du Congo. Parce que ailleurs ça bougeait, surtout dans les ex-colonies françaises, ça bougeait. Là, il y avait des élections, tout. Les premiers noirs partaient déjà en France pour aller siéger. Bon, alors, Van Bilsen trouve que la Belgique est en retard, il faut quand même faire un plan. Alors, pour lui, il estimait que dans 30 ans, le Congo peut accéder à l'indépendance. Le temps de former les cadres.
Les cadres, oui.
Bon, il fait son plan. Alors, le plan fait des réactions, et en Belgique, et ici au Congo. Bon, en Belgique d'abord, ils sont mécontents. Mais c'est ce que Cheven, qui était ministre de l'économie, dit, mais Van Bilsen ne comprend rien. Si nous commençons à poser ce genre de problème, les capitalistes vont fuir notre pays et le Congo. Ça, c'est la première réaction. Et puis Bousséret aussi, qui était le ministre des colonies, était fâché. Il dit, mais tiens, mais est-ce que lui connaît l'Afrique? Il ne connaît rien du tout. On ne peut pas parler de l'indépendance du Congo dans 30 ans. Ça, c'est en Belgique.
Oui.
Mais alors, au Congo, il y a des réactions.
Oui.
Van Bilsen, bon, c'est ainsi que tout à l'heure, je vous parlais de ce cercle d'études qui avait été initié par Monseigneur Maloul à l'époque. Il était abbé à Saint-Pierre, à Kinshasa. Alors, autour de l'abbé Maloul, il y avait des jeunes intellectuels intellectuels de cette époque, parce que ce sont des gens qui ne faisaient que 5 ans primaire, plutôt que 4 ans post-primaire. Mm. Les Galoula, les Léo, bon, tout autour, ils ont commencé un peu à étudier, voir ces plans. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Bon, finalement, hein, Léo a fait un manifeste sur base du plan Van Bulsen, la conscience africaine. Alors, dans le manifeste, ils ont fait l'étude du plan, mm-hmm, en disant, nous sommes d'accord peut-être pour l'indépendance dans 30 ans, mais il faut dès maintenant commencer à revoir les conditions des Congolais.
Oui.
C'est ainsi que, par exemple, Léo utilise le terme qu'il ne faut pas que l'on prenne en considération la couleur de la peau.
Mm.
Il ne faut pas que la couleur de la peau puisse permettre n'importe quel avantage. Non. Nous sommes des hommes, nous sommes des Congolais, il nous faut du respect. Il nous faut qu'on puisse, on doit nous garantir le droit politique, ainsi de suite, le droit de presse, le droit d'opinion, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, mais ils étaient d'accord pour 30 ans. C'est alors que la BACO va surgir pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et on programme une assemblée, une réunion de la BACO où la BACO allait donner son point de vue.
Mm-hmm.
La BACO aussi a initié, a organisé des commissions pour étudier le plan Van Bulsen.
Mm.
La commission, les commissions se mettent au travail. Et puis, la BACO aussi initie un manifeste, contre-manifeste. Alors, ces jours-là, c'était d'ailleurs là où se trouve l'actuel maintenant stade de martyrs.
Oui.
Il y avait un bureau qu'on appelait population noire, c'est-à-dire les Africains, bon, les indigènes, c'est là où ils étaient inventoriés, c'est là où l'on prenait les cartes, l'enregistrement. Bon, alors cette réunion s'est tenue là-bas. Le président Kasavubu devrait lire le texte de manifeste. Mais il y a quand même un fait qu'il faut signaler, c'est-à-dire
lequel?
Il y avait le premier bourgmestre à l'époque, c'était un blanc, M. Tordeur, avait assisté à la réunion. Et puis il y avait aussi un autre blanc qui était membre de la BACO, mais qui était chef de la population noire, M. Cordy. Et puis on voyait que la ville de Léopoldville, parce que tout se faisait à Kinshasa. Mais la BACO trouvait qu'il pouvait être le porte-parole de tout le monde. D'ailleurs, il y avait une expression qu'on appelait le Congo belge, c'est l'empire du silence. Parce qu'il n'y avait aucune réaction. Il n'y avait aucune réaction. Les Congolais supportaient le poids colonial
sans revendication.
Et nous, on était toujours sous le joug colonial. C'est ainsi que les gens disent non, non. Les Bakongo, avec ces mouvements de Kimbangi, ils se voyaient déjà, voilà, à l'avant-plan.
Mm-hmm.
C'est ça.
Et finalement, tout ceci a abouti à quoi? Bien entendu, avant qu'on ait parlé de table ronde ou de quoi que ce soit.
Bon, voilà, c'est un cheminement. Lorsque Kasavubu, il donne ses réactions-là, le 23 août 1956.
Mm.
Ce discours, dans le manifeste, c'est alors qu'il va revendiquer. C'est là pour la toute première fois. C'était le 23 août 1956 que Kasavubu va dire, de toutes les façons, nous ne sommes pas d'accord avec le plan Van Bulsen. Pour nous, nous demandons l'indépendance immédiate. C'était ces jours-là que ce mot indépendance immédiate a été prononcé
pour la première
dans
fois.
Ces pays pour la première.
Et c'en est fini avec votre émission Un jour, une histoire sur Radio Capi qui s'est intéressée à quelques acteurs et facteurs qui ont concouru à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Merci à nos deux invités, Isidore Lubanza-Dio, j'y arrive, et Jean-Ré Pince, qui nous ont apporté également leur version de faits. Au micro, Pamela Mounazo-Moalou. La prise de son était de Bob Landou et Jean-Marc Matouaki a supervisé. Notez que le week-end prochain, nous allons vous parler de l'acte de l'indépendance avec le professeur Bob Boboutaka. Voilà pour le menu de l'émission prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, agréable audition d'écoute. À très vite. Au revoir.